Chapitre 6. La nuit venait. Il n'y avait d'autre éclairage dans la pièce que des lampes à huile grecque ou romaine, dont quelques-unes se trouvaient sur le bureau de Sir Randolph. Tous ces feux follets distribuaient une lumière douce et agréable. Ma fureur tomba d'un coup pour laisser place à une confusion accablée. Cessez de faire l'imbécile avec ces ciseaux, me lança mon hôte avec flegme. Malgré certaines apparences, nous ne sommes pas dans un opéra bouffe, mais dans un hôpital très en avance sur notre époque, où les médecins jouent la comédie pour sauvegarder la santé mentale du malade. La déclaration était si fantastique, si inattendue, que j'en demeurais sans voix, fixant Lord Melrose avec incrédulité. Ce dernier insista avant de poursuivre, maîtrisant sans tact une émotion qui tenait moins sans doute à mon éclat qu'aux révélations extraordinaires qu'il s'apprêtait à me confier. Sir Randolph, le regard comme tourné vers l'intérieur de son être, se décida enfin. « Oui, vous êtes dans une maison de santé où, Dieu merci, c'est le malade qui se porte le mieux. N'est-ce point le triomphe de la médecine ? Le sort a voulu... à ce que je vois que vous ne partissiez pas sans être mis au fait. Et après tout, puisque vous êtes un honnête garçon, cela vaut peut-être mieux. Une fois bien éclairé, vous marcherez sans doute avec nous d'une façon ou d'une autre. Bénissons le ciel en tout cas que votre accès de compréhensible mauvaise humeur ait eu lieu en l'absence de ma fille qui est allée assister l'une de ses chiennes préférées en train de mettre bas. Si vous aviez eu le malheur de choquer par Ternop, j'aurais perdu mon calme pour la première fois de ma vie, et je ne sais ce que nous serions tous devenus, prisonniers d'un volcan, soudain entrés en éruption. Il y a 18 ans, monsieur Darwin, au début du mois de juin 1809, j'étais au comble de mes voeux dans l'attente d'une imminente naissance que nous espérions depuis plus de 20 ans. J'avais épousé, en 1788, les unions franco-anglaises étaient déjà plus ou moins à la mode, la fille aînée du duc de Fitzgemene, pair de France, chevalier de Saint-Michel et du Saint-Esprit, qui possédait, notamment en Bretagne, des terres considérables. Mariage d'argent, mariage de convenance, mariage d'estime, qui se fit peu à peu mariage de sentiment. Une sale ombre planait sur notre bonheur. Au lieu d'avoir des héritiers, nous héritions. J'ai perdu mon père et ma sœur en 95, mon frère en 97, mes oncles en 1803, et la guillotine de ce fou furieux de Robespierre avait théoriquement mis ma femme en possession de biens énormes. Le 1er juin 1809, j'étais seigneur en Irlande de vastes domaines. J'avais des terres et des châteaux dans 3 comtés d'Angleterre, et à Londres même, des terrains bâtis qui rapportaient gros. Je passe sur de fructueuses participations dans les affaires coloniales. En Grande-Bretagne, la noblesse n'a jamais craint de déroger en faisant de l'argent. Bon sens qui nous a épargné la Révolution française, l'or et le pouvoir étant dans les mêmes mains. Et le samedi 10 juin 1809, lorsque ma chère épouse mourut en couche en donnant le jour à Parthenope, j'héritais encore d'une fortune dont Louis XVIII devait pour l'essentiel m'assurer la jouissance en 1814. J'avais mené jusqu'à mon veuvage l'existence la plus futile et la plus plaisante dans notre hôtel de Londres, dont je sortais pour voyager, pour chasser et pour presser les rentrées de mes fermages. À partir de 96, toutefois, première marque de sérieux, je m'étais désintéressé de mes maîtresses et de mes équipages pour réunir une collection de tableaux et d'objets d'art qui devint d'année en année l'une des plus belles d'Angleterre et peut aujourd'hui supporter la comparaison avec celle de Lord Northwick, que j'ai d'ailleurs fréquenté à Rome en 1802. Je me réveillerai sans cesse au matin de ce 10 juin 1809, arpentant le grand salon de ma résidence londonienne, tandis que Babington procédait à la délivrance de ma femme. J'étais plein d'espoir et ne doutais pas que tout du bien se passait. Antoinette, dont la piété catholique était fort vive, s'était préparée à l'événement par un pèlerinage irlandais et par un grand usage de médailles miraculeuses. Elle avait même tenu au service d'un accoucheur papiste, qui jouissait sans doute, malgré sa relative jeunesse, d'une grande réputation. Bref, à 9:50, le cœur dévoué de ma femme avait cessé de battre et j'avais un enfant anormal sur les bras. Je ne pense pas qu'il puisse arriver à un homme plus grand malheur, ou chance plus insigne, d'événements plus propres en tout cas à modifier ses idées, ses sentiments, sa conduite, ses relations avec Dieu, avec les autres, avec lui-même, à faire de soi un nouveau. À partir de ce 10 juin-là, j'ai quitté un monde de privilèges pour rentrer dans le droit commun des malheureux et, cessant de vivre pour moi-même, je n'ai vécu que pour ma fille. Après des journées de stupeur et de prostration, j'ai naturellement pris conseil et, des mois durant, j'ai cherché un remède ou un palliatif à ce coup du sort. Les plus grands chirurgiens étaient divisés. L'inexpérience d'une telle situation poussait les uns à ne rien faire, à ne pas risquer une tentative qui présentait de tels risques d'infection ou de liaison nerveuse irréversible chez un être aussi tendre et aussi jeune. On ne savait trop quelle était l'anatomie, la structure, la nature exacte des premières vertèbres de cette queue, dont on n'avait pas vu d'exemple depuis Hérodote ou Tite-Live. D'autres praticiens, qui se refusaient à un retranchement radical, se disputaient en latin de chiffonnier sur l'endroit précis où il convenait de porter le fer. Mais l'hypothèse d'un tronçon de queue était plus insupportable encore que le maintien d'une queue intacte. Qu'est-ce qu'une fille peut bien faire d'une demi-queue? Quelqu'un, avec de grandes hésitations, se déclarait prêt à couper le maximum sans pouvoir garantir une issue favorable. Et l'opération eût-elle réussi qu'une déprimante cicatrice aurait sans doute interdit à ma petite Parthénope de se marier décemment. Au milieu des discussions byzantines de la faculté, j'avais la tête de plus en plus perdue. Babington, lui, penchait pour l'abstention. Les théologiens n'étaient pas moins divisés. Ils étaient frappés par le fait qu'il ne s'agissait point d'une anomalie courante, dont la correction médicale n'eût pas posé de problème métaphysique hors du commun. L'enfant avait simplement été gratifié par un certain caprice de dame nature d'un appendice supplémentaire dont toutes sortes d'animaux se trouvaient déjà pourvus à leur parfaite satisfaction. Elle était d'autre part vigoureuse, éveillée et bien constituée. Selon l'heureuse formule de l'archevêque d'York, « Anatomia puellulae non est pathologica sed vem inter bestialis », autrement dit, la construction de la fillette n'est pas maladive, mais fortement animale. Partant, l'éminent prélat se demandait s'il était licite de prétendre réformer un décret original de la divine providence, puisqu'on se trouvait apparemment dans le cas où une guenon aurait été douée d'une âme immortelle. Au contraire, son confrère anglican de Canterbury, saisi d'une sorte d'épouvante inquiète, adoptait la position laxiste de retrancher à tout prix. Cependant, comme je m'étais engagé par mariage à élever d'éventuels enfants dans la religion romaine et que je suis homme d'honneur, il était tout indiqué que j'accordasse une attention particulière à l'opinion des théologiens catholiques. J'ai aussitôt consulté Rome, et la curie a fait diligence pour remettre sa réponse. En 1824, j'avais enfin l'autorisation de couper, mais un peu tard. Au risque d'anticiper, je vous signale que j'ai reçu à cette occasion une missive autographe du fameux cardinal Sacchetti, qui manifestait de grandes craintes à l'idée que la queue de Parthénope, qui avait alors une quinzaine d'années, aurait pu être utilisée au détriment des églises chrétiennes par des contempteurs voltairiens des Saintes Écritures. C'est à la sollicitude de ce Sacchetti que je dois la présence du père Bentivoglio, dont la mission officieuse paraît bien être de s'assurer que la queue de ma fille ne dépassera pas le cercle des intimes. L'archevêque de Canterbury avait déjà exprimé une hantise de ce genre, ce pourquoi, sans doute, il avait été partisan d'une intervention décisive pour écraser le scandale ab ovo. Comme vous le voyez, en 1809, médicalement et religieusement, j'étais dans une situation aussi douloureuse qu'ambiguë, accablé par mes responsabilités et ne sachant à quoi me résoudre. Excédé, j'ai pris à l'automne Parthénope sur mon bras et nous sommes allés cacher notre honte dans l'un de mes châteaux irlandais aux environs duquel il y avait pléthore de filles mères regorgeant de lait. C'est là que je fis la connaissance du père Donegan, un excellent garçon, discret et dévoué, qui devait accepter plus tard de me suivre sur Kalinaos. Sa conversation rustique et sa foi toute simple me changeaient agréablement des ratiocinations londoniennes. Quant à Babington, en janvier 1810, il est venu assister au baptême où il a servi de parrain, ma mère faisant la marraine. Son amitié éclairée m'a encore été plus précieuse que celle de Donegan. Babington s'était passionné dès le premier instant pour le cas de Parthenope et dès 1813, j'ai eu le bonheur et l'avantage de l'attacher définitivement à ma maison. Je crains toutefois que la queue de cet enfant n'ait été pour ce jeune médecin prétexte à réflexion arbitraire, qui l'ont insensiblement détaché de la foi, confirmant ainsi les craintes de l'archevêque anglican de Canterbury et du cardinal Sacchetti. Après tout, c'est l'âme qui fait l'homme, la conscience du bien et du mal, et non point la queue. Au fur et à mesure que Parthenope grandissait dans ce château isolé, aux mains de quelques domestiques sûrs, sans autre compagnie permanente et vraiment affectueuse que la mienne, mes tourments devenaient intolérables. Le jour approchait d'heure en heure où elle allait prendre conscience de son anomalie, où elle m'interrogerait, où il faudrait bien que je lui répondisse quelque chose et davantage. J'en restais pétrifié. Fatalité d'autant plus affreuse que cette petite était la grâce, la sensibilité, la confiance en personne. Je me sentais incapable de lui porter un tel coup de poignard, encore plus incapable d'en charger un autre que moi-même. Et quand Parthenope prendrait de l'âge, son intelligence naturelle la réduirait au dernier désespoir et peut-être à la folie. Un soir que ma fille, qui était entrée dans sa troisième année, cherchait en riant de sa main potelée à attraper ma queue absente, je me remémorai d'un coup, comme dans un éclair, ce passage célèbre de la vie des 12 Césars de Suétone que j'avais par hasard relu la veille dans mon désœuvrement et que je connais à présent par cœur.
En ce temps-là, Caligula eut à juger d'une affaire qui faisait l'objet de toutes les conversations sur le forum, et qu'il résolut, avec ce mélange de cruelle logique, d'insensé des mesures et de mépris du droit, qui n'appartenait qu'à lui, soucieux de renchérir encore sur les extravagances honteuses ou criminelles qui défrayaient la chronique. Le fils unique et tendrement chéri d'un certain chevalier Publius Verus Ofella était revenu borgne et défiguré des guerres parthiques. La douleur de cet Ofella fut immense et lui troubla la raison, car le jeune homme qui avait perdu sur le champ le goût de vivre était renommé pour sa beauté et pour ses succès auprès des Romaines les plus coquettes. Dans un accès de fureur insane, Ofella se creva lui-même un œil, comme si ce sacrifice eût pu rendre à son unique enfant l'intégrité de sa vision et le charme caressant de son regard. Et ces deux borgnes se consolèrent ensemble un moment dans le silence d'une maison médusée. Bientôt, Ofella chercha sur le marché des esclaves borgnes pour le service particulier de son malheureux fils, qui avait la faiblesse de trouver dans cet accommodement une sorte de délectation morose. Les borgnes se faisant rares, Ofella, au risque de déchaîner une révolte et d'exciter la réprobation publique, en vint progressivement à éborgner tous les esclaves de sa villa, du philosophe stoïcien qui jeta de gros cris, au jardinier lugubre qui se fit une raison. Puis, ce fut le tour des concubines bavardes que le père et le fils se partageaient pour chercher sur leur sein l'oubli de leur disgrâce. Le jour où Ofella prétendit faire éborgner l'un de ses clients, qui était venu imprudemment quérir sa sportule, le prêteur alerté dut intervenir. En somme, l'infortuné Ofella s'était efforcé de constituer autour d'un enfant borgne un monde cyclopéen. Cette tendresse paternelle émut quelques-uns, mais effraya la plupart, qui la trouvèrent excessive. Au matin d'une nuit d'orgie, Caligula fit guérir le jeune homme et le renvoya aveugle à son père, démontrant par là que la folie elle-même doit connaître ses limites.
Cette salutaire et tonifiante lecture
Le geste innocent de Parthenope cherchant ma queue se conjuguèrent pour me causer un ébranlement, une illumination providentielle. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'ai tout conçu, j'ai tout prévu, j'ai tout imaginé, et j'en suis tombé à genoux de reconnaissance et d'émotion. J'allais me faire l'Ophéla du XIXe siècle.
Si nous y réfléchissons bien, en effet, c'est le bon sens qui nous crie que le traitement idéal des enfants anormaux, chaque fois que c'est possible, est d'organiser autour d'eux, à leur exclusif profit, un décor en harmonie avec leurs particularités. Toutes les souffrances qui tiennent à la vie sociale, et qui sont bien souvent les pires, sont ainsi escamotées par le jeu d'une illusion sans défaillance. On ne souffre point de ce qu'on ignore. L'avenir de toute une thérapeutique est au théâtre. Chaque fois que l'individu ne peut s'adapter, il faut adapter l'entourage, créer un monde sur mesure, sacrifier les commodités et les préjugés de chacun à un constant souci de sauvegarde. Qui mieux qu'un père pouvait concevoir et mettre en pratique ce programme aussi généreux qu'efficace, le seul qui s'offrait d'ailleurs à moi pour éviter l'enfer où nous étions à la veille de nous enliser sans espoir de retour. Programme de toute une vie, programme excessivement coûteux, mais j'en avais, grâce à Dieu, le temps et les moyens. Dérouté, puis enthousiaste, m'a bientôt assisté de tout son pouvoir. Donegan, d'abord réticent, comme s'il avait vu dans l'expédient un manque d'humilité, voire une tentative impie, a fini par se laisser convaincre, et à partir de 1814, McLaurin, l'un de mes hommes d'affaires les plus doués, a mis ses remarquables talents d'organisation à mon service.
Les résultats, vous avez pu en juger. Sans l'inconduite accidentelle d'une fille de service quelconque, vous seriez parti de chez moi avec l'impression d'avoir fait un rêve si incroyable que l'envie vous y vite passait de le raconter. Bavardage de peu d'importance d'ailleurs, puisque l'essentiel vous aurait échappé. Je me moque bien d'avoir une réputation d'excentrique, pourvu que le seul secret qui m'importe demeure à jamais enseveli sur cette île, ce secret qui est celui de Parthenope avant que d'être le mien.
Mais quel labeur pour entreprendre, achever et parachever une telle mise en scène! Quel soin attentif pour en faire perdurer toutes les vertus! Prouesse d'autant plus difficile que l'intelligence de ma fille est plus prompte, ses connaissances de plus en plus étendues, qu'elle jouit d'un flair quasiment animal pour subodorer ce qui n'est pas en ordre. Il s'agit en fait de soutenir à bout de bras une machinerie complexe dont le moindre dérèglement pourrait donner l'éveil. Et le jour où un léger soupçon viendrait à Parthenope, tout serait vite perdu. Comme le dit une soubrette de ce Marivaux dont ma chère Antoinette faisait ses délices bien qu'il fût passé de mode, si je lui dis un peu, il le sera tout à fait. Il me fallait naturellement une île, pas trop grande pour que la surveillance en fût aisée, pas trop petite car Parthenope s'y fut trouvée à l'étroit, une île suffisamment isolée pour décourager les escapades, mais bien reliée néanmoins à des terres civilisées, de sorte que fussent possibles les importations indispensables et les visites choisies. Une île salubre et riante, où le soleil inviterait à la gaieté et chasserait les sombres humeurs. Une île assez fertile pour que les eaux courantes irriguent quelques potagers et abreuvent quelques vaches ou moutons. Nous avons au centre de Kalinao une source thermale, comme à Citerre, et une ferme modèle où Parthenope a joué enfant entre des queues de toutes sortes. Une île giboyeuse pour passer le temps et montrer à Parthenope des queues sauvages. Une île anglaise, enfin, pour que j'y jouisse de toutes les protections dues à ma fortune, à ma naissance et à mes titres. Après une longue enquête, je me suis arrêté sur Kalinao, ce qui présentait le maximum d'avantages pour les moindres inconvénients. Il me fallait une île parsemée de vestiges, de populations simiesques que Parthenope découvrirait peu à peu avec une nostalgique émotion au hasard de ses courses juvéniles. Vous en avez vous-même, monsieur Darwin, apprécié quelques-uns, ce que m'a dit Babington.
J'ai poussé la prévenance jusqu'à fabriquer un petit Pompéi enfouissant des matériels vrais ou faux par ordre d'ancienneté, les plus récents étant bien sûr par-dessus. Ma fille est très fière de ses fouilles et s'est constituée un modeste musée personnel dans un coin de la galerie des antiques pour mettre à l'abri ses trouvailles les plus délicates et les plus fragiles. Elle a attrapé bien des taches de rousseur sur ce chantier et, en faisant piocher avec 1000 précautions, elle est descendue aux environs de l'époque archaïque. Il me fallait aménager de manière convenable les célèbres collections que j'avais patiemment réunies à Londres et dont je voulais d'autant moins me séparer qu'elles étaient indispensables à la formation artistique de Parthenope. Et comme j'espérais développer chez elle le goût du beau et le sens de l'authentique, il était nécessaire que je fisse rectifier les chefs-d'œuvre qui l'exigeaient. Si j'en avais privé Parthenope, elle se fût étonnée tôt ou tard de ne distinguer de queue sur les tableaux ou objets de faible valeur ou de facture secondaire, et un soupçon aurait pu découler de ma négligence. Je n'ai eu d'hésitation que pour mon Gréco, mais puisque le bon Dieu avait fait une queue à ma fille, je pouvais bien en faire une à son fils, ce n'était qu'un prêté pour un rendu. C'est l'une de mes initiatives que Donogan avait admise pour l'amour de Parthenope, mais que Bentivoglio a poliment réprouvée. Il me fallait faire fabriquer de toutes pièces un supplément d'illusion, de sorte que tous les domaines de l'art payassent leur tribut au mythe. Et là encore, vous avez pu voir la haute qualité de mes initiatives. Comme pour les retouches, j'ai mobilisé à cette occasion, parmi les artistes les plus réputés d'Europe, ceux qui acceptaient, moyennant finance, de commettre une bizarrerie dont la portée leur échappait. Pour obtenir ma Diane à queue courte, j'ai dû éponger les dettes les plus criantes de Canova, mais Parthenope s'y reconnaît, et cela n'a pas de prix. Il me fallait revoir aussi une immense littérature, de manière à ordonner les rectifications ou les refontes qui s'imposaient après mûre réflexion. Parthenope devait avoir son bagage de queue livresque pour toute son existence. J'ai fait travailler les imprimeurs et les relieurs les plus experts, capables de changer une page sans qu'il y parût au choix du papier ou des caractères. Et lorsque cette tâche s'avérait impossible, c'est une édition entière qui sortait des presses, dont le premier exemplaire était aussi le dernier. Il me fallait refaire l'histoire à partir de Waterloo, car seule la prolongation ad libitum de la guerre pouvait à la longue dissuader Parthenope de courir un monde qui l'eût crucifié. Par bonheur, les perpétuelles agressions des Français depuis 1792 portait alors plus au point d'inconscience par un aventurier corse préoccupé de caser sa misérable famille, offrait à l'imagination une voie inépuisable. Quand l'histoire se fait aberrante, monstrueuse, ridicule, il est aisé d'en rajouter. J'ai ainsi prolongé les succès de Bonaparte, que j'ai même ressuscité pour les besoins de la cause, et de nouveau déguisé en douanier et pris de blocus continental. Ce maudit Corse a encore une belle carrière devant lui, car plus ma fille aura envie de s'évader, plus les victoires françaises feront remettre son voyage. En désespoir de cause, j'ai déjà étudié la revanche de Trafalgar. Et si la situation devenait quelque jour intenable, j'entraînerai Parthenope sur une plantation que j'ai acquise au fin fond de la Louisiane. Il y a ici toute une documentation d'où il ressort que les nègres sont si primitifs que la Providence n'a pas jugé utile de leur donner une queue. Vous voyez à quel point je suis prévoyant. Il me fallait bien persuader Parthenope que la guerre faisait rage plus que jamais, et j'ai fondé, à prix d'or, un Times jumeau dont l'unique exemplaire nous arrive de temps à autre. S'il tombe aux mains des historiens du futur, il leur posera des problèmes ardus. En attendant, il forme à merveille l'esprit de Parthenope chaque fois qu'elle daigne le parcourir d'un regard ennuyé. Il me fallait réunir des domestiques exceptionnels à tout point de vue, car la faiblesse du système est assurément de ce côté, comme vient de le prouver le fâcheux incident qui vous a amené ce soir devant moi avec une paire de ciseaux. Je ne parle point de la probité, Ces gens-là sont payés comme des princes tant qu'ils sont à Kalinaos, et touchent par la suite une rente confortable qui achève de me garantir leur silence. Ils sont tous d'accord pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, et ils montent une garde des plus attentives autour du secret, dans leur propre intérêt, comme dans celui des parents ou des amis prêts à leur succéder. Non, je parle d'un relâchement, d'une défaillance, d'une négligence toujours possible, d'un derrière superflu sous un eucalyptus. Du moins, ai-je veillé personnellement à sélectionner des sujets dont le sang-froid et la présence d'esprit seraient capables de pallier à un imprévu dans l'instant. Il me fallait, pour aérer l'esprit de Parthenope, inviter de loin en loin un gentleman à traîner une queue chez moi, ce qui ne va point sans négociations ardues et leçons fastidieuses. Vous avez aperçu la queue à pompons du capitaine Macpherson. Si les queues de domestiques sont chères, les queues de capitaine sont hors de prix. Le jour où je recevrai l'amiral, je ferai banqueroute. Les dames sont par bonheur plus abordables, car leurs robes les dispensent de tout artifice. Mais je m'en méfie pour des motifs de discrétion. Il me fallait encore durer dans les conditions les meilleures jusqu'à ce que Kalinao fût en ordre pour nous recevoir, ce qui ne s'est pas produit, malgré la plus extrême diligence, avant la fin de 1817, Parthenope avait 8 ans. Aussi, de 1813 à 1817, avons-nous vécu, ma fille, Babington et moi-même, sur un domaine que j'avais loué en Crète, dans les environs de Candy, en plein pays turquifié. Les Turcs ont ceci d'agréable, qu'ils circulent en robe ou en pantalon bouffant, et qu'ils sont aimablement corrompus. Pour 3 000 livres sterling, j'avais obtenu du pacha, sous prétexte de ménager la pudeur de Parthenope, un firman interdisant aux mères de laisser les enfants courir le derrière nu, sous peine du pal, et pour plus de sûreté, j'avais fait distribuer des vêtements et des subsides. Cette halte a été des plus profitables à Parthenope. Elle a pu faire provision de souvenirs turcs avant ce cloître de Kalinaos, où elle est plus emprisonnée qu'elle ne le croit, mais encore trop à son avis. Il me fallait enfin prévoir le cas où un marin sans queue aborderait à Kalinaos sans y être invité, malgré les légendes terribles et horrifiques que j'avais fait courir chez les populations superstitieuses des îles Ioniennes. J'avais même prévu la rencontre qui est survenue par le plus grand des hasards, sans aller pourtant, je l'avoue, monsieur Darwin, jusqu'à vous imaginer tout nu dans un olivier, montrant par la force des choses votre derrière sans queue à ma fille. Il est bien connu que la réalité l'emporte aisément sur nos pauvres fictions. J'ai longtemps buté contre cet écueil. C'est Babington qui m'a soufflé la solution. Tout ce que nous pouvions faire, afin de parer davantage à un coup aussi déplorable, était d'introduire précocement dans l'esprit de Parthenope un rapport destiné à se préciser au fil des ans entre l'absence de queue chez un homme et la possibilité de mœurs équivoques. Impressionnée par ce préjugé, ma fille devait, en principe, devant un humble matelot sans queue, éprouver peu de surprise et moins encore d'intérêt, me laissant toute latitude pour me débarrasser de l'intrus au mieux de notre sûreté. Vous avez, hélas, mon jeune ami, été victime quelques jours de cette légitime défense, élaborée en théorie à l'encontre de cette racaille dépravée qui encombre les navires de tous les pays du globe. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne de votre distinction pût ainsi être prise au piège, mais vous avouez peut-être que vous avez posé le pied sur Kalinaos à la suite d'un concours de circonstances hautement improbable qui vous avait amené de votre douillet Shrewsbury jusqu'aux poulaines de la couronne. Je suis heureux d'être ce soir en mesure de vous présenter mes regrets. Cet excellent Babington lui-même n'a pas, croyez-le bien, travaillé de gaieté de cœur à vous dérouter comme il l'a fait avec la participation de quelques autres. Cependant, pour affaiblir le sens critique et détourner la curiosité, la plus sûre méthode n'est-elle point de poser des problèmes personnels insolubles? Il s'en est fallu de bien peu que vous n'embarquiez sans rien pénétrer d'un secret qui ne vous était pas destiné, malgré tous vos mérites. Mais à présent que je me suis ouvert à vous sans réticence, je vais espérer que vous mettrez votre honneur à être discret, comme le souhaitent d'ailleurs conjointement les églises anglicanes et romaines, pour une fois du même avis. Puis-je, mon ami, compter sur vous ?
J'avais écouté l'exposé de Sir Randolph avec l'intérêt, la passion, le soulagement que l'on devine. J'étais même dans une manière d'étourdissement joyeux que mon univers de toujours se retrouva soudain tout à fait d'aplomb dans ma tête, comme par miracle, alors que j'avais pu craindre pour l'intégrité de mon esprit et même de mes sensations. Bien mieux encore, si une Parthénope toute nouvelle surgissait, dont la queue solitaire posait un gigantesque point d'interrogation, du moins cette queue mirifique, qui avait failli m'échapper à jamais, redevenait-elle bien réelle et palpable de nouveau? Elle était même la pierre angulaire de toute une étonnante construction. En un mot, le monde rassurant de la prose et le monde excitant du rêve, qu'on aurait pu croire inconciliable, s'unissaient enfin pour me combler. La perspective s'ouvrait à moi de merveilleuses vacances. Dans mon ravissement, je ne pouvais qu'oublier les mauvais procédés d'un Babington et me montrer gracieux. « Milord, dis-je, je serai le dernier des goujats si, recueilli par vos soins, rétabli par toutes vos attentions, j'ajoutais encore à votre peine par des bavardages inconséquents. Tant que je vivrai, votre secret de famille ne franchira point mes lèvres, et j'irai même jusqu'à soutenir que je serai sans doute le premier à le garder jalousement, sans en tirer pour si peu le moindre profit. Je solliciterai seulement des bontés de votre grâce deux minimes faveurs, qui me semblent toutes naturelles et comme une équitable compensation à ce que des circonstances contraires m'ont donné à subir jusqu'ici. Tout d'abord, que je puisse prolonger mon séjour parmi vous, afin de me refaire une santé morale après tant d'ébranlements funestes. Ensuite, que le nécessaire soit fait pour chasser de l'esprit de Lady Parthenope, dont l'estime m'est précieuse, ce qui restait de fâcheux soupçons à mon égard. Lord Melrose s'empressa de m'accorder ces deux satisfactions. La cloche du dîner sonnait. La journée m'avait tellement secoué que j'en avais l'estomac noué. Je dis à Sir Randolph que je ne mangerai point, que j'avais surtout besoin d'un sommeil réparateur. Dès que je fus allongé dans ma chambre, je m'endormis comme un bienheureux.